en ce 12 février, à rencontre spirituelle. C'est comme chacun sait, le mercredi des cendres, c'est le début du carême. C'est une période de jeûne, de pénitence, mais aussi de grande charité où l'on doit vraiment tout faire pour aider ceux qui sont mal pris. Et faire des économies, justement, en mangeant moins, en dépensant moins, pour vraiment aider les pauvres. C'est le sens profond du carême, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Le mercredi des cendres, ça tire, je vous le rappelle, son nom, des cendres qui proviennent de la combustion des rameaux qui ont été bénis l'année précédente, au dimanche des rameaux, évidemment, au début de la Semaine Sainte. Et c'est avec ces cendres-là qu'au cours d'un office, aujourd'hui, là, dans les églises, il y en a à la messe à midi, à la messe en fin d'après-midi, au grand séminaire sur la rue Sherbrooke, il y en a une belle messe à 5 heures, où on pourra recevoir les cendres et le prêtre va nous marquer du signe de la croix au front pour nous rappeler que nous sommes mortels, pour nous rappeler que nous devons vraiment vivre comme des chrétiens. Et durant le carême, bien les grands hymnes comme le « Gloire à Dieu », les « Alléluia », les hymnes de gloire et de joie sont supprimés, les ornements deviennent violets. C'est pour nous rappeler que nous devons faire pénitence. Faire pénitence, c'est vraiment apprendre à se contrôler, à avoir vraiment une conduite plus digne de ce que nous sommes comme chrétiens. Et c'est durant cette période du carême, je vous le rappelle, que les catéchumènes, les convertis, là, les adultes qui cherchent le baptême, se préparent justement à ce baptême et qui leur sera donné, en principe, dans la nuit de Pâques. Alors nous pouvons prier pour tous ceux qui, à Montréal, ont choisi Jésus-Christ, ont été appelés par Jésus-Christ, ont été pris par le cœur de Jésus-Christ. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Aujourd'hui, l'émission est consacrée justement à Jésus-Christ et à la position qu'il a prise sur le péché. Il n'y a pas si longtemps, les chrétiens, les catholiques en particulier, vivaient dans la crainte du péché mortel et de l'enfer. Hein? Nous étions persuadés qu'en n'allant pas à la messe le dimanche, nous commettions un péché mortel et qu'il fallait évidemment, le plus tôt possible, accuser cette faute à confesse avant de communier. Et nous régnions dans une pastorale de la peur, comme dit Jean de Lumeau. Les temps ont bien changé, dit-on. Aujourd'hui, bien rares sont les chrétiens qui se confessent régulièrement. Or, l'une des raisons pour lesquelles il y a cette grande désaffection des fidèles et qui ne fréquentent plus le sacrement de la pénitence ou de la réconciliation, c'est la diminution chez eux du sens du péché. Alors, on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Je crois que c'est très, très important. De plus en plus de chrétiens vont même jusqu'à souhaiter un catholicisme qui passerait le plus possible sous silence les notions de péché, puis de commandement, de loi, d'interdiction, puis de surtout de jugement dernier. Ça fait peur, ça. Alors, voilà des notions négative que traîne le catholicisme, disent-ils. Et ces notions engendrent des catholiques moroses, qui sont étouffés de complexes de culpabilité. Il est grand temps, paraît-il, de présenter enfin l'Évangile tel que Jésus l'a annoncé, c'est-à-dire l'Évangile si beau et si merveilleux des béatitudes, l'Évangile de l'amour, comme on le retrouve dans les textes de Saint Jean. Ce serait trop simple de ne voir dans cette demande de très nombreux catholiques qu'une espèce de séquelle d'un concile Vatican II mal compris, ou bien de l'époque des années 60, là, la Flower Generation, où on se permettait n'importe quoi sous prétexte qu'il n'y a plus de péché, ou ici il y avait un slogan qui traînait beaucoup dans ces années-là, dans les années 70, hein, « Il est interdit d'interdire », on écrivait ça un peu partout. En fait, cette contestation de l'idée de loi puis de péché a des racines profondes, ça vaut la peine de chercher à savoir pourquoi. Et alors, nous serons mis en mesure de souligner ensuite comment l'affirmation capitale de notre foi, là, le Christ est mort pour nos péchés, il est mort par amour pour nous, mais ça suppose que nous sommes tous pécheurs et même pauvres pécheurs, mais pécheurs pardonnés. Et c'est ça vraiment la bonne nouvelle qui n'a cessé de réjouir les chrétiens tout au long de leur histoire. Elle est surtout la source de leur bonheur éternel, de leur joie éternelle. La diminution du sens du péché dans la culture contemporaine, il en est question en particulier dans un article de la Revue des Deux Mondes en 1971, il y a déjà 25 ans. Il est écrit « Jamais les mœurs n'ont été pures, mais il s'élevait toujours des voix pour les juger. » Et l'auteur de cet article rappelle Louis XV qui étalait ses scandales à la cour de France, et toute la France en parlait. Mais l'enfer, dit-on, le hantait. Et ses filles entraient au couvent. Je vous ai fait une émission d'ailleurs sur Madame Louise, sa fille Louise, qui est devenue carmélite à Paris. C'est une émission du 20 décembre 1995. Et l'article dans la Revue des Deux Mondes ajoute « À présent, c'est la notion la plus élémentaire du bien et du mal qui se trouve mise en procès. » Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Parce que on sait que les recherches des psychanalystes ont mis en valeur, et souvent avec beaucoup de raison, tous les nombreux conditionnements psychologiques inconscients auxquels nous sommes tous soumis. Hein. Lorsque nous nous croyons coupables de quelques fautes, nous sommes beaucoup plus victimes, disent-ils, de nos pulsions inconscientes que vraiment coupables. Il y a une grande part de vérité là-dedans. Il suffit de penser que 95% des jeunes délinquants viennent de milieux familiaux brisés et que tous ou presque tous les homosexuels n'ont pas choisi de l'être. Or, si nous ne sommes pas vraiment libres, nous ne pouvons plus dire « c'est ma faute, c'est ma très grande faute hein. ». On dit ça dans le Confiteor, dans « Je confesse à Dieu ». Alors, c'est un premier fruit, celui de la psychanalyse. Il y a aussi le caractère souvent morbide du sentiment de culpabilité, disent-ils. Il est à l'origine de multiples névroses, puis de beaucoup de suicides même. C'est ce que dit aussi la psychanalyse de nos jours de plus en plus. Hein. Puis enfin, le caractère progressif de l'évolution affective. L'évolution affective, c'est pas facile. C'est pas du jour au lendemain qu'un adolescent parvient, par exemple, à maîtriser sa sexualité. Alors, pourquoi culpabiliser ses retards? Se maîtriser, c'est pas facile. C'est ce que disent de plus en plus les gens qui s'intéressent à la psychologie, à la psychanalyse. Et la sociologie, quant à elle, qui est souvent d'inspiration marxiste, même encore aujourd'hui, dénonce la morale comme une superstructure idéologique, hein? La morale, une superstructure idéologique, au service de la classe dominante. Comment ça? Mais c'est que le concept de péché aurait toujours tendance à nous faire sombrer en nous-mêmes, puis à nous faire oublier les terribles réalités économiques et politiques. En encourageant les chrétiens à purifier leur conscience, en faisant des examens de conscience, en se confessant, ils purifient leur conscience de toute méchanceté, de toute violence. Mais la morale catholique favoriserait leur résignation à accepter sans rien dire des structures sociales injustes. La morale, comme la religion, on le répète, n'est-ce pas, c'est l'opium du peuple. Nous serions heureux dans nos églises, puis nous serions, nous catholiques, inconscients des réalités politiques et sociales. On est obligé quand même de reconnaître qu'au 19e siècle, les chrétiens étaient souvent bien scrupuleux en matière de morale familiale, mais qu'ils l'étaient moins en matière de morale sociale ou internationale. Puis d'autre part, il y a aussi les études ethnologiques, les études des peuples, des mœurs des peuples. Ça met en valeur l'extrême diversité des attitudes morales à travers le temps et l'espace. Ces études engendrent spontanément un certain relativisme moral chez ceux qui s'y adonnent. Ils se demandent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On regarde les peuples, c'est pas toujours pareil. On dirait que cette morale naturelle a des failles. D'autre part, les médias ne cessent de nous présenter les avis les plus contradictoires. Et on le voit dans le domaine du respect de la vie. Quand est-ce qu'on parle du respect de la vie? On parle plutôt du respect de la femme, qui a le droit, dit-elle, d'avorter. Mais on parle de l'avortement, du divorce aussi, de la cohabitation des jeunes qui vivent sexuellement tout ce qu'ils veulent. Et tout ça est accepté comme une chose tout à fait normale aujourd'hui. L'euthanasie aussi, de plus en plus, bien, la compassion nous porte à l'euthanasie. Et devant un tel déluge d'informations, mais comment pouvons-nous échapper au scepticisme en matière de morale? On doute. Et on s'aperçoit de plus en plus que la plupart de nos décisions ont des répercussions de toutes sortes. Elles sont souvent imprévisibles, si bien que certaines de nos bonnes actions, accomplies avec une entière générosité, ont parfois des conséquences lointaines assez malheureuses. Pensez à nos grands oncles et nos grandes tantes, les religieux, les religieuses et missionnaires, qui croyaient bien faire en allant évangéliser l'Afrique ou la Chine, puis on le leur reproche souvent aujourd'hui. Alors, où est le bien? Ceux qui ont évangélisé les Amérindiens du Canada, du Québec, on le leur reproche aujourd'hui. Et on s'aperçoit également de plus en plus que les grands fléaux dont souffre l'humanité, les famines, les guerres, le sous-développement, soit ça tire leur origine des injustices flagrantes sur le plan international, et alors sommes-nous tous ensemble responsables de ces injustices? Quand on pense à cela, on se dit, l'accusation à un prêtre de petits péchés personnels commis dans le secret de notre conscience semble bien peu de choses. Nous sommes quand même des hommes de notre temps, puis face à la dénonciation des injustices internationales dont souffre l'humanité, les actions menées pour les supprimer, nos petites confessions ont l'air de rien du tout. Alors on se dit que le combat politique en faveur des pauvres de la planète est bien plus agréable à Dieu que le souci de redevenir, dans un confessionnal, blanc comme neige, comme on disait quand j'étais jeune. Et on dit qu'il vaut mieux se salir un peu les mains dans les affrontements de la vie plutôt que de garder les mains pures sans les utiliser. C'est un point de vue très répandu. Mais d'autre part, beaucoup de nos contemporains sont influencés, sans le savoir, par la pensée du grand philosophe allemand Nietzsche. Rappelons qu'il a été, avec Marcuse, le principal inspirateur des thèses et slogans de mai 68. J'étais arrivé, moi, en juin 68 à Paris, c'était terrible. On ne parlait que de ça en France. C'était tout comme une révolution sociale. Et tout ça, ça s'est répandu un peu dans le monde entier, toutes ces idées de Nietzsche. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Québec puis en Occident. Jésus, selon Nietzsche, a été un admirable exemple d'amour et de liberté, mais malheureusement, les chrétiens ont complètement, dit-il, dénaturé son message en faisant rentrer l'amour dans la catégorie des commandements. Et puis saint Paul a présenté l'amour comme quelque chose d'obligatoire, au lieu de le définir comme un idéal à atteindre joyeusement et librement. Alors les hommes, pense Nietzsche, devraient vivre par-delà le bien et le mal, sans se poser de problèmes moraux, sans faire d'examen de conscience. Et voilà, on ouvre les portes à tout. Chacun, dit-il, doit suivre sa voie. C'est Nietzsche qui dit ça. Il dit aussi, je résume sa pensée, en fait, contrairement à ce que pensent les chrétiens, Jésus n'a nullement formé ses disciples. Il ne leur a demandé ni de croire en lui, ni de suivre son enseignement moral. C'est toutes des faussetés quand on lit les textes d'Évangile. Il ne s'est pas davantage présenté comme sauveur. S'il a affirmé que toute faute contre l'homme était un péché contre Dieu, c'était afin que l'homme finisse par dépasser la notion de péché. C'est ce qu'ils disent, ces gens-là. Alors, c'est un enseignement subtil que les contemporains de Nietzsche n'ont pas saisi, c'est-à-dire l'enseignement subtil de Jésus n'a pas été saisi par ses contemporains, qui était trop marqué par la tradition juive à laquelle ils appartenaient. Alors, vous verrez bientôt que ceux qui disent cela aurait besoin d'écouter la suite de cette émission, parce qu'on en arrive à la négation même, chose curieuse, de Satan et de l'enfer. Et pourtant, c'est dans les évangiles et dans toute la tradition de l'Église. Je vous ai fait une émission sur l'enfer. C'est pas facile. J'ai beaucoup de difficultés moi-même devant le problème de Satan et de l'enfer. Mais encore, sommes-nous chrétiens? Parce que dès les origines, les chrétiens ont été tentés de minimiser les textes du Nouveau Testament sur Satan et l'enfer. C'est pas nouveau, hein? On disait que Dieu est trop bon, trop miséricordieux pour permettre la souffrance éternelle d'une seule de ses créatures. Et je vous rappelle que les disciples d'Origène, même au IIIe siècle, disaient par exemple qu'il y aurait à la fin des temps, vous vous souvenez, je l'ai dit dans mon émission sur l'enfer, une apocatastase, je vous avais expliqué ça, c'est-à-dire une réintégration dans le ciel de tous les damnés, que Dieu pardonnerait finalement à tout le monde. Alors, c'est bien facile de comprendre que tous ceux qui ne croient pas à l'autorité doctrinale de l'Église sont tentés, comme je l'ai été moi-même, d'interpréter les nombreuses mises en garde de Jésus contre Satan et l'enfer. Hein? Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais bien des difficultés. C'est normal. Faut pas trop s'en faire, vous qui en avez des difficultés. Ne vous en faites pas. Demandez à l'Esprit-Saint de vous éclairer. Je vous cite deux textes de Jésus pour vous rappeler les vérités qu'il a prononcées. Dans Luc, chapitre 12, « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. » Et dans Saint Matthieu, au chapitre 6, « Quand vous prierez, vous direz, « Père, délivre-nous du mauvais. » C'est ça que ça veut dire, hein? « Délivre-nous du mal. »« Délivre-nous du mauvais, c'est le vrai mot. » Alors, ceux qui ne croient plus à l'enfer ont évidemment tendance à ne plus prendre au sérieux les exigences morales bien difficiles de l'Évangile. C'est presque normal pour beaucoup de gens qui n'ont pas saisi que l'amour dont Dieu nous aime nous force en quelque sorte à répondre « Oui, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et je ne veux pas pécher contre toi. » Enfin, il y a certains chrétiens, des lecteurs un peu précis des Épîtres de Saint-Paul et de Saint-Jean, qui estiment que le Christ nous a libérés du régime de la loi et que désormais nous devons vivre uniquement sous la mouvance de l'Esprit-Saint. C'est une opinion très répandue parce que c'est très attirant et c'est très beau même. Le contenu de notre conduite ne doit plus être dicté, disent-ils, par une loi extérieure et générale, les 10 commandements. Ils rejettent ça. Mais ça doit être mu par, justement, l'émotion intérieure que l'Esprit-Saint suscite en chacun de nous. Quand on vit sous l'inspiration du Saint-Esprit, disent-ils, on n'a plus besoin de se référer à la loi, hein? C'est ce qu'ils pensent. On suit le conseil donné donc par Saint-Augustin, « Aime » et fais ce que tu veux. C'est une des plus belles paroles de l'histoire de l'Église. Aime et fais ce que tu veux. Car quand on aime Dieu, on ne veut plus blesser son cœur. Et on fait ce que nous voulons, c'est-à-dire ce que Dieu veut finalement. Car notre volonté est identifiée à celui qu'on aime. Alors quant à ce qui doit motiver le chrétien, ça ne doit plus être, disent-ils, la peur de désobéir à Dieu et d'encourir sa punition. Mais ça doit être l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Comme l'écrit Saint-Jean, celui qui a été baptisé dans l'Esprit est libéré de toute peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, dit Saint-Jean dans la première épître. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Le parfait amour bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. Alors, les chrétiens qui se croient encore obligés d'obéir à une loi tombent, dit-on, facilement dans un certain nombre de travers qui les empêchent de vivre la pureté de l'idéal évangélique. Alors, on invoque le souci égoïste de garder bonne conscience. On n'a pas tort, au fond, quand on y pense, mais il faut bien faire attention. Alors, au lieu d'agir par amour de ses frères, les fidèles, soucieux d'obéir à des lois morales, veulent avant tout rester en paix avec eux-mêmes. Puis on s'attaque avec raison au pharisianisme, le pharisaïsme. Les chrétiens très respectueux des préceptes nombreux de la loi risquent de ne pas s'apercevoir à quel point ils sont par ailleurs orgueilleux sans cœur, disent-ils. Alors là, la régularité de leurs observances et de leurs aumônes peut les empêcher de discerner l'énormité de leur suffisance, puis de leur dureté. Ils sont orgueilleux. Ils sont égoïstes parce qu'ils se croient très bons catholiques. Il y a des catholiques qui sont des modèles dans la société. Je connais des prêtres admirables et d'une grande humilité. On les pointe du doigt, mais ils sont humbles. L'humilité, c'est autre chose. Puis le manque de naturel et de souplesse, hein, ceux qui se contraignent à accomplir quelque chose par devoir risquent fort de n'être pas naturels. Hein. Ils sont raides, guindés. Risquent ainsi de faire plus de mal que de bien, puis feraient mieux d'être plus spontanés, puis leur compagnie serait plus agréable. Puis aussi le poison de la culpabilité, hein, ceux qui se croient obligés d'obéir à des lois se sentent coupables quand ils le sont Quand ils font pas, là, ce qu'ils doivent faire, ils vivent donc sous le régime de la peur et puis de la culpabilité. Puis c'est une atmosphère morbide qu'ils font respirer à leurs proches, puis qui empoisonne l'éducation de leurs enfants. Mais attention, les parents, c'est un grave problème, ça. Mais je crois à la rémission des péchés. Cette affirmation du credo restera toujours un aspect essentiel de la bonne nouvelle proclamée par Jésus, notre Seigneur, tout au long de son ministère. Il dit bien dans Matthieu, chapitre 9, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Il en a parlé du péché, Jésus. Et loin d'être traumatisante, la reconnaissance de notre condition de pécheur, c'est à l'origine de nos plus grandes joies. Je pense à mon fils sortant d'un confessionnal, qu'il ait perdu un sacrement, puis me disant, je vous l'ai déjà dit, « Ah, papa, c'est comme si j'avais des ailes, je me sens comme un oiseau. » Il était naïf, mon grand-fils. Il avait bon cœur. Mais comment retrouver le sens du péché au milieu de toutes les contestations actuelles? Bon, ben, je suis un pécheur. Il y a deux conditions pour que je le sois. Que je sois libre, que le Christ n'ait pas aboli la loi, c'est évident. Or, nous pensons que ces deux conditions se trouvent réalisées. Il n'a pas aboli la loi, le Christ. L'expérience de ma liberté, je la fais à travers deux séries d'expériences. Il y a les efforts. Il y a les grands moments de sincérité. Les efforts que je n'accomplis pas ou que je m'oblige à faire, suivant que je me laisse aller ou que je me reprends en main, malgré le poids des habitudes bonnes ou mauvaises contractées dans le passé, je sens qu'il dépend de moi de me refuser ou non telle facilité, de m'intéresser ou non à telle personne, de me mettre en colère ou de me maîtriser. Et les verbes, vous savez, les verbes pronominaux là, de la langue française, expriment bien cette possibilité que nous avons d'agir sur nous-mêmes. Hein? Je me contrôle, etc. De nous conditionner nous-mêmes, d'être des artisans de notre personnalité. Nous avons une volonté quand même. Et les grands moments de sincérité aussi, où je reconnais loyalement, je suis vraiment orgueilleux ou paresseux, que j'ai négligé des tas de choses. Je sens alors qu'il dépend de moi de m'ouvrir ou non à cette lumière de Dieu. L'homme possède, en effet, ce terrible pouvoir de s'aveugler lui-même et d'ignorer ou de nier ce qu'il ne veut pas voir. C'est le mécanisme de la mauvaise foi. On est tous pris par ce, moi le premier. Le mensonge à soi-même. Les plus beaux actes libres de notre vie sont sans doute ceux par lesquels nous nous libérons de cette mauvaise foi. Sincérité qui est souvent le premier pas d'une conversion religieuse. Pour rencontrer Dieu tel qu'il est, il faut se reconnaître tel qu'on est et tel que lui nous voit. C'est pas facile. C'est d'ailleurs un acte libre de ce genre que nous aurons à faire à l'heure de notre mort. L'acte libre décisif de notre vie, celui que tous les autres préparent. Savoir bien mourir, bien passer dans les bras de Dieu. Il faut savoir qu'aucun penseur au monde n'a réussi à prouver la liberté humaine. La liberté s'éprouve au moment même où nous l'exerçons. Il ne faut pas céder ensuite à cette espèce très particulière de mauvaise foi qui consiste à prétendre que personne n'est libre, on est conditionné, les sciences humaines l'ont démontré. Mais voyons, face à toutes les théories avancées par les sciences humaines, il dépend de nous de prendre au sérieux là, l'expérience que nous faisons de notre liberté profonde. Alors on voit toute la distance qui sépare la vision chrétienne de celle des penseurs grecs ou des grands penseurs hindous. On va chercher du côté de l'Inde. Mais nous avons au sein du catholicisme ce qu'il faut. Dans un célèbre paradoxe, Socrate affirmait que nul n'est méchant volontairement. C'est comme ça les penseurs grecs. Puis les philosophes hindous, eux autres, la faute n'est qu'une erreur. Bon. On peut bien accepter un peu par charité chrétienne. Mais les hommes peuvent s'aveugler eux-mêmes, refuser de voir la vérité. Puis la mauvaise foi, c'est une réalité. Et c'est terrible, la mauvaise foi. C'est une des choses les plus graves qui soient. Jésus n'est pas venu abolir la loi du décalogue des 10 commandements, là. Il est venu nous aider à l'accomplir. Et même si tous les commandements de la loi se résument, si on veut, dans le double précepte de l'amour de Dieu et du prochain, comme Jésus le dit dans Matthieu 22, verset 40, mais un tel amour, aime Dieu et ton prochain comme toi-même, un tel amour reste bel et bien obligatoire. Jésus continue à conjuguer le verbe aimer à l'impératif. C'est un commandement nouveau. Il nous indique du même coup que si nous n'avons pas un pouvoir dictatorial sur les différents mouvements de notre sensibilité, de nos humeurs, nos sympathies puis nos antipathies, mais chacun de nous peut se rendre compte au plus profond de lui-même de l'élan qui le porte à aimer véritablement. Et ça se fait aussi en observant les 10 commandements de Dieu. Et quand je vous parle des commandements de Dieu, je vous parle des conseils de bonheur absolu que Dieu nous donne. Je vous ai donc dit que on peut retrouver, au plus profond de nous-mêmes, cet élan qui nous porte à aimer véritablement, à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Il y a là cet élan. Et en nous invitant à vivre sous l'influence de l'Esprit-Saint, l'apôtre Paul, saint Paul, ne nous dit pas d'éliminer la loi de nos perspectives. Le Saint-Esprit nous a été promis et donné, il nous a été donné, nous l'avons, pour que nous puissions vivre selon cette loi d'amour que nous sommes incapables de réaliser sans son impulsion. On trouve ça dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, au chapitre 36. C'est un beau texte que vous connaissez, vous qui priez beaucoup dans les églises. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois. Marchez selon mes lois. Par amour. Dans l'amour. C'est sûr et certain que l'idéal est d'en arriver à brûler d'un tel amour pour Dieu et son prochain. On finit par oublier que l'amour est un devoir. Les saints, c'est comme ça. Mais nous, les ordinaires, on a besoin d'un peu plus. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous présente comme modèle d'amour un homme qui s'approche d'un blessé, vous vous souvenez, qui devient son prochain en écoutant son bon cœur. C'est pas le devoir qu'il pousse à s'approcher de lui, les Samaritains ne se préoccupaient guère de la loi d'ailleurs, mais c'est son cœur, son cœur. C'est donc bien vrai que la meilleure manière de suivre le commandement de la loi, le « tu aimeras », est d'avoir le cœur ouvert. Et dans ce cœur, un tel amour qu'on finit par oublier l'existence de ce commandement. Mais il faut bien dire que s'il y a des lois universelles, valables pour tous, on ne doit jamais se dispenser de chercher notre propre vocation personnelle. Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de ma vie? Est-ce que je suis en train de la perdre? J'ai 28 ans, là. Qu'est-ce qui m'intéresse? L'argent? Je suis seul, je ne suis pas marié, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas d'enfant. Est-ce que je peux encore donner ma vie? Je n'en ai qu'une. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est en étant disponible aux motions intérieures de l'Esprit que je le découvrirai. Pourtant, le Christ n'a éliminé ni le caractère obligatoire de la loi d'amour, ni le décalogue. Les 10 commandements ne nous indiquent que l'itinéraire à suivre quand nous voulons bondir au service de nos frères. Ce sont des conditions de bonheur, mais il nous indique les impasses à éviter. Pour ne pas nous détruire nous-mêmes, Dieu ne veut pas que nous abîmions les autres non plus. Et c'est Jacques de Bourbon-Busset que j'avais interviewé à Rencontre, qui disait, Rencontre, c'est une émission de télévision, j'étais réalisateur, il disait, Jacques de Bourbon-Busset, « La violence du Dieu de la Bible contre le péché des hommes est l'expression même de son amour. Il ne supporte pas la destruction de ceux qu'il aime, leur dégradation dans l'alcool ou la débauche, la stérilisation de leur cœur et la disparition de leur amour. » La loi de Dieu nous rappelle que l'amour doit se concrétiser dans la justice. N'oublions jamais ça. dans le respect de la vie aussi, le respect de la vie, dans la monogamie, etc. À ne plus tenir compte des 10 commandements, on finit par se persuader qu'il est permis de tuer par amour un petit bébé ou un vieillard. Et pourtant, tu ne tueras point, hein, c'est la loi. Et c'est une loi qui est pleine d'amour, c'est pas des commandements plats, secs et durs qui viennent d'un Moloch, ça vient du cœur tout aimant de Dieu. Cette loi de Dieu, ça rend pas névrosé. On peut le vérifier en répondant aux critiques adressées à ceux qui agissent par devoir. Il me semble facile de reconnaître que la paix intérieure de l'honnête homme qui accomplit son devoir de son mieux est une expérience humaine fondamentale, que tout véritable éducateur doit aider les jeunes à faire. Et quand on a fait son devoir, quand on a fait ce qu'on doit faire, quelle joie on ressent au fond de son cœur. Avec Platon, l'éducateur doit les aider, les jeunes, à découvrir que le juste persécuté est plus heureux que son bourreau. C'est même dans l'expérience de cette obligation morale que l'homme éprouve le plus vivement sa liberté psychologique. C'est Kant qui disait « tu dois, donc tu peux ». En effet, lorsque je me sens soumis à une obligation morale, je ressens très fort qu'il dépend de moi d'y obéir ou non. Autrement dit, l'expérience décisive de ma liberté n'a pas lieu lorsque j'hésite entre deux paires de chaussures à acheter, mais lorsque je me sens tiraillé entre le bien et le mal. Et dans une très belle formule, c'est André Malraux qui exprimait la même idée à son ancien aumônier de Maquis, le chanoine Pierre Bockel, que nous avions interviewé aussi à Rencontre à Strasbourg. Quel homme admirable que ce chanoine Pierre Bockel, grand ami d'André Malraux. C'est un homme vraiment libre, disait Malraux, est animé de la volonté de se subordonner à ce qui en lui le dépasse. Ce qui en nous nous dépasse, nous devons faire que notre volonté la recherche. L'homme qui prend le maquis, disons, durant la guerre en France, là, qui dit non à l'envahisseur allemand, le fait parce qu'il a d'abord dit oui à des exigences de solidarité et de patriotisme qui viennent du plus profond de lui-même et qu'il dépasse. La liberté des peuples est à ce prix dans bien des cas. C'est malheureux à dire. Or, cette joie de se soumettre à des valeurs morales rencontrées au fond de sa conscience n'est évidemment pas pour le chrétien le sommet de la joie humaine. Elle doit être, quoi? Elle doit être évangélisée pour devenir la joie d'obéir à Dieu et de lui plaire dans les moindres actions de la vie quotidienne. Mais le chrétien aujourd'hui, aussi soucieux de saluer les valeurs humaines vécues par ses frères incroyants, aurait grandement tort de déprécier ce sommet d'humanisme qu'est la joie d'une conscience droite. Il serait mal avisé, ce chrétien, de ne pas aider ses propres enfants à la vivre. Cette paix de la conscience, du vrai chrétien, ne s'accompagne pas forcément de pharisaïsme. Bien au contraire. Celui qui s'efforce d'obéir à sa conscience, il devient normalement de plus en plus délicat et exigeant vis-à-vis de lui-même. Et cette exigence peut très bien s'accompagner d'une grande indulgence vis-à-vis des autres. On le voit chez les confesseurs. Des prêtres très exigeants à l'égard d'eux-mêmes, des saints, sont d'une grande indulgence vis-à-vis nos péchés à nous, pauvres chrétiens. Le chrétien qui se force à obéir à sa conscience est souvent un peu raide, c'est vrai, mais à force d'efforts, la raideur disparaît. Une splendeur de l'habitude qui nous permet d'accomplir avec de plus en plus de souplesse ce qui nous demandait d'abord beaucoup de volonté. Plus on pratique des choses à faire qu'on doit faire, puis on les fait tout à coup, ça jaillit de notre cœur. Or, rappelons qu'il vaut mieux être fidèle avec un héroïsme un peu tendu qu'être lâche avec beaucoup de décontraction. On en voit étendu sur le dos les 4 fers en l'air, pensant qu'ils sont heureux. J'aime mieux quelqu'un d'un peu rêche peut-être, mais qui est héroïque. Un martyr n'est pas particulièrement détendu lorsque torturé, il refuse de renier Dieu. L'amour, ça suppose parfois une extraordinaire tension de la volonté. Le sentiment de culpabilité qui suit l'accomplissement d'une faute n'est pas malsain. C'est pas malsain. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas en soi. Il est au contraire le signe que la personne n'est pas handicapée dans sa conscience morale. Il faut en effet distinguer. D'abord, il y a le sentiment spontané de culpabilité qui accompagne souvent l'arrivée d'un malheur. Hein, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cette épreuve, pour que mon enfant soit aveugle? Puis un sentiment que le Christ nous demande d'éliminer. Ça, il aime pas ça quand on dit ça. C'est dans l'Évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 9, verset 3. Vous voulez le lire? « Ce n'est pas à cause de son péché qu'il est aveugle. » Jésus le dit. Alors, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose au bon Dieu qu'il nous arrive quelque chose. Voyons donc. Dieu nous aime. Il y a aussi les scrupules de celui qui voit des péchés là où il n'y en a pas. Ça, c'est triste. C'est une terrible maladie. Il faut demander la guérison, puis il faut se faire guérir de ça, les scrupules. Les âmes tordues. Puis il y a le complexe morbide de culpabilité chez celui qui se croit toujours coupable de quelque chose sans savoir de quoi. Hein? Un complexe qu'il faut faire soigner, puis comment? Hein? On dit que chez des musulmans, une femme qui reçoit une gifle quand son mari arrive, elle se dit, je ne sais pas pourquoi il m'a giflé, mais il doit y avoir une raison. Elle se sent toujours coupable. C'est des blagues. Puis, il y a la conscience normale de sa faute. Quand on n'a pas fait son devoir, un remords. Un remords auquel, nous le verrons, il ne faut pas s'arrêter quand on est chrétien, mais qui n'a rien de morbide en lui-même et qui peut être évangélisé. Oui, oui, pour devenir la peine d'avoir fait souffrir ses frères, la peine d'avoir offensé Dieu. Enfin, il y a la joie proprement évangélique d'être, voilà la clé de tout, la joie d'être un pauvre pécheur pardonné. C'est une joie. C'est l'un des grands ressorts de l'enthousiasme chrétien. Mais il est évident que nous sommes tous appelés à ne pas nous contenter d'observer les 10 préceptes de la loi, les 10 commandements de Dieu. Le Christ invite, nous souvenez, le jeune homme riche là, à aller plus loin, à mettre un brin de folie dans sa vie, à prendre comme règle de vie les béatitudes du sermon sur la montagne. Ne perdons pas nos vies. Vous, les jeunes, qui avez la foi, qui m'écoutez, perdez pas votre vie. Il ne s'agit pas d'éliminer les 10 commandements, les 10 balises qui bordent notre route, mais de courir sur cette route avec un cœur tout renouvelé par l'Esprit Saint. Déchaîne ton cœur, comme disait quelqu'un, et tu connaîtras la joie parfaite. Suivre le Christ est accepter, accepter de monter avec lui jusqu'au calvaire, de contempler longuement la folie de son amour. Et d'en tirer toutes les conséquences. C'est comme le remarquait Emmanuel Mounier. Je vous ai fait une émission, il me semble qu'elle était belle, j'ose le dire, d'Emmanuel Mounier, là, le 22 mars dernier. Comme le remarquait donc Emmanuel Mounier, ce grand saint laïc, je le dis un saint, c'est moi qui le canonise, là. Au lieu d'éduquer les jeunes à une vie normalement heureuse, de les christianiser par quelques vertus et quelques trucs, nous devons, dit Emmanuel Mounier, les préparer à une vie souffrante, qui doit être inlassablement transformé en joie. C'est cela la réussite, la joie mêlée de larmes. La joie mêlée de larmes. Voilà comment considérer que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut dire « je suis un pauvre pécheur ». Je peux interpréter en deux sens différents la pauvreté de ma condition de pécheur. Je peux tout d'abord me dire que je ne manque pas de circonstances atténuantes, hein? Je suis né dans un monde de péché. Ben, c'est dans le psaume 51. Dans le péché, ma mère m'a conçu. La doctrine chrétienne du péché originel, attention, attention, met en valeur cette terrible réalité d'un monde pécheur qui me précède et me conditionne. Un jour, je vous ferai une émission sur le problème du péché originel, c'est-à-dire ce poids que nous avons du péché qui traîne en nous de par notre nature, de notre origine, et qui vient de nos ancêtres, tout ce péché de l'humanité qui traîne en nous, et dont le Christ seul peut nous libérer. Les sacrements, le sacrement du pardon, l'Eucharistie, l'amour, la pratique de l'Évangile. Je peux dire aussi que je suis extrêmement fragile devant le péché. Je peux dire, non, je ne fais pas le bien que je veux, je commets le mal que je ne veux pas, hein, c'est dans l'Épître aux Romains. Mais comme Jean-Paul II le rappelle dans son encyclique de 1986, l'Esprit Saint, que le Christ nous envoie comme avocat, nous pousse plutôt à plaider coupable devant Dieu. L'autre avocat, le Christ, se charge de prendre notre défense devant le cœur de son Père. Oh, je crois que son Père comprend, d'ailleurs. Ils ont le même cœur. C'est Dieu, un seul Dieu. Mais nous aimons bien invoquer le secours de Jésus. Parce qu'il est plus près de nous. Il s'est fait homme. Il nous a vus. Il est mort par amour pour nous. Quand je dis que je suis un pauvre pécheur et que c'est ça qui est important à la fin de cette émission aujourd'hui sur le péché, sur ce que Jésus en a dit, il est peut-être préférable de dire, plutôt que je suis un pauvre pécheur, je dirais je suis beaucoup plus pécheur que je ne l'imagine. Il y a dans mon cœur les racines de tous les péchés possibles. Et dans la Bible, dans Saint Marc, chapitre 7. C'est donc sans cesse que je dois demander à Dieu de me préserver de l'orgueil. Surtout dans le travail que je fais, c'est terrible. Puis de me purifier par son esprit de toutes mes tendances au mal. D'ailleurs, plus les saints se laissent envahir par l'esprit du Seigneur, plus ils s'aperçoivent de leur condition de pauvres pécheurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la grande tentation, imaginez, c'est merveilleux ça, la grande tentation du curé d'Ars, ce n'était pas l'orgueil, mais le désespoir, témoin des merveilleuses conversions qui s'accomplissaient dans son confessionnal, il était néanmoins persuadé d'être lui-même un très grand prêcheur, le curé d'Ars. Puis en 1822, Dieu lui avait donné une très vive conscience de sa propre misère. Il en fut si effrayé qu'il a prié Dieu de répandre une lumière moins vive sur son âme, de crainte d'avoir des pensées de désespoir. C'est pourquoi il va dire un jour, le curé d'Ars, à la baronne de Bellevée, « Ne demandez pas à Dieu la connaissance totale de votre misère, je l'ai demandé une fois et je l'ai obtenue. Oh, si Dieu ne m'avait alors soutenu, je serais tombé à l'instant même dans le désespoir. » Autrement dit, il arrive que Dieu accorde parfois à ses enfants ce que Saint Thérèse d'Avila appelle la grâce d'humilité infuse. Qu'est-ce que c'est? Elle écrit dans sa vie, au chapitre 15, « Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il n'est pas nécessaire de rechercher péniblement des considérations pour nous exciter à l'humilité puis à la confusion de nous-mêmes. Le Seigneur met en nous une humilité bien différente de celle que nous pouvons nous procurer par nos faibles pensées. La nôtre, en effet, n'est rien en comparaison de cette humilité vraie et éclairée que notre Seigneur enseigne alors, et qui produit en nous une confusion capable de nous anéantir. Plus ses faveurs sont élevées, plus notre connaissance est profonde. Enfin, je peux me dire que je suis un pauvre pécheur pardonné, pardonné. Ah, c'est la grande découverte à faire dans une vie. C'est la grande joie de nous, chrétiens, chrétiens catholiques. Percevoir à travers nos incohérences et nos retards la patience inlassable de Dieu envers nous. On peut dire sans risque d'erreur que nous n'avons vraiment compris l'Évangile qu'après avoir goûté la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Je demandais un jour à Jacques Le Breton, que nous avons interviewé aussi à Rencontre, deux belles émissions que vous avez, j'espère, vues, cet homme aveugle et sans main, comment il avait été possible d'abandonner Dieu pendant plusieurs années, alors qu'après son terrible accident, sans Dieu et sans main, il avait tant expérimenté sa présence sur son lit d'hôpital. Ne serait-ce pas que vous n'aviez pas encore découvert sa miséricorde, et Jacques Le Breton de répondre, « C'est tout à fait cela. » Il a fallu que je lâche Dieu pour que je découvre le véritable visage de Dieu qui est miséricorde. Maintenant, je suis sûr que je ne le lâcherai plus, ou plutôt qu'il ne me lâchera pas. Un Dieu ne nous lâche pas. Ne croyez jamais que Dieu vous a abandonné. Jamais, jamais, jamais. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Et chacun d'entre nous pourrait dire que c'est après avoir commis et reconnu des péchés sans excuse qu'il a enfin découvert qu'il était aimé d'un amour sans bavure. Et on fait des péchés dont on s'immonde. Comment ai-je pu? J'ai pas d'excuse. mais nous sommes pardonnés d'un amour sans bavure. Ah, l'amour de Dieu est total. Ce que j'ai découvert, c'est une jeune fille qui disait ça, ce que j'ai découvert au cours de cette retraite, c'est que je suis bête, mais qu'il est fou. Mais oui, Dieu est fou d'amour. Oui, tout est là. Hein? Il s'agit d'en arriver un jour à chanter avec tous les psaumes la miséricorde inconditionnelle de notre Dieu. C'est là l'expérience de Saint-Pierre, de Sainte-Marie-Madeleine et du bon larron. Hein? Peu importe le scénario de notre vie. Il n'est pas nécessaire d'avoir nié le Christ comme Saint-Pierre, puis d'avoir eu le diable au corps comme Sainte-Marie-Madeleine. L'essentiel, c'est d'avoir expérimenté une fois à travers sa misère de quel amour nous sommes aimés. Je répète, l'essentiel est d'avoir expérimenté une fois à travers sa misère de quel amour nous sommes aimés, de quel amour nous sommes aimés. C'est ce qu'écrivait sœur Élisabeth de la Trinité à sa sœur Gitte le 16 juillet 1906. Elle est bien heureuse, Élisabeth de la Trinité, carmélite. Lui, il est l'immuable, celui qui ne change jamais. Il t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier, comme il t'aimera demain. Même si tu lui as fait de la peine, rappelle-toi qu'un abîme appelle un autre abîme et que l'abîme de ta misère, petite Gitte, attire l'abîme de sa miséricorde. Oh, vois-tu, il me fait tant comprendre cela, et c'est pour nous deux. En somme, et c'est ce qu'il faut retenir, ne pas reconnaître sa condition de pécheur, c'est s'exposer à ne jamais découvrir le secret le plus profond de la joie chrétienne. C'est dans l'Épître aux Galates, il m'a aimé et s'est livré pour moi par amour. Pécheur sur le calvaire, regarde et adore ton Sauveur. Regarde la façon dont il continue à te regarder, alors que tu viens de le crucifier. Alors tu comprendras à la fois l'énormité de ton péché et la surabondance de son amour. Comment présenter le péché aux jeunes, aujourd'hui, aux hommes de notre temps? Il faut faire comme l'ont fait tous les saints de notre histoire, François d'Assise, Thérèse d'Avila, le curé d'Ars, etc., en leur montrant la joie de vivre intensément sa condition de pauvre pécheur pardonné. La confusion d'avoir péché cède alors le pas, la confusion d'être tant aimé. C'est comme si j'avais des ailes, disait mon fils en sortant du confessionnal. C'est le cardinal Lustiger qui résume tout cela si bien. Il est vrai que le pécheur ne mesure son péché que dans le pardon qu'il en reçoit. Avant cela, il est esclave de son péché. Son regard est obscurci, son cœur est endurci, comme dit l'Écriture. Quand le pécheur est prêt à demander pardon, c'est que déjà, dit le cardinal Lustiger, c'est que déjà le pardon l'a touché. Son cœur de pierre est brisé, il est broyé. Alors, j'ajoute, moi, que là, le pécheur est envahi par l'amour de Dieu, c'est ce que je vous souhaite. Recevez les cendres aujourd'hui, confessez-vous. Laissez-vous remplir par l'amour de Dieu. Cet amour qui est dévorant.